Ivanhoé, chapitre 9. Au milieu de cette foule nombreuse, on remarquait une femme d'un maintien rempli de noblesse et de majesté. Sa taille, sa beauté annonçaient une véritable souveraine. Et si rien n'égalait ses traits, rien n'égalait aussi la richesse de sa parure. Une couronne d'or entourait son front. Elle était simple, sans pompe, et belle, sans ostentation. Une branche d'arbuste était dans sa main, et elle la tenait élevée comme un symbole de commandement. Dridon, la fleur et la feuille. Guillaume de Wiville et Étienne de Martival, maréchaux du camp, vinrent les premiers offrir leurs félicitations au vainqueur. Ils le prièrent de permettre que l'on détachât son casque, ou du moins de lever sa visière pour paraître devant le prince Jean, qui devait lui décerner de ses mains le prix du tournoi. Le chevalier déshérité refusa avec une courtoisie toute chevaleresque d'accéder à leur demande, et leur dit que, par des raisons qu'il avait déduites au héros avant d'entrer en lice, il ne pouvait, quant à présent, laisser voir ses traits. Cette réponse suffit au maréchaux, car au nombre des vœux par lesquels les chevaliers s'engageaient dans ces temps reculés, vœux toujours dictés par le caprice, on remarquait souvent celui de garder l'incognito pendant un certain espace de temps, ou jusqu'à ce que quelque aventure particulière eût été accomplie. Les maréchaux ne cherchèrent donc point à pénétrer le mystère dont s'entourait le chevalier déshérité, mais, annonçant au prince Jean le désir qu'avait manifesté l'étranger de rester inconnu, ils demandèrent la permission de le lui amener, afin qu'il reçût du prince lui-même la récompense de sa valeur. Le mystère dont s'enveloppait l'étranger piquait la curiosité de Jean, et déjà peu satisfait de l'issue du tournoi dans lequel les tenants qu'il favorisait avaient été successivement vaincus par un seul chevalier, il répondit au maréchaux d'un ton hautain. « Par Notre-Dame, il faut que ce chevalier ait été déshérité de sa courtoisie comme il l'a été de ses domaines, puisqu'il désire paraître devant nous, visière baissée. Quelqu'un de vous, milord, dit-il en se tournant vers sa suite, pourrait-il me dire quel est ce brave, quoique peu courtois, chevalier ?»« J'ignore qu'il peut être, répondit de Bracy. En vérité, je ne pensais pas qu'entre les quatre mers qui entourent la Grande-Bretagne, il pût se trouver un champion capable de terrasser en un seul jour ces cinq chevaliers. Par ma foi, je n'oublierai jamais la violence avec laquelle De Vipont a été désarçonné. Le pauvre hospitalier a été jeté hors de sa selle comme une pierre lancée par une fronde. « Que parlez-vous de De Vipont ? » dit un chevalier de Saint-Jean. « Votre templier n'a pas été plus heureux. J'ai vu Bois-Guilbert rouler trois fois sur lui-même, les mains serrées et pleines de sable. » De Bracy, qui était attaché au Templier, allait répliquer, mais le prince Jean s'écria « Silence, messieurs! Cessez ces inutiles discussions !» « Le vainqueur, dit de Wiville, attend qu'il plaise à votre grâce de l'en recevoir. »« Eh bien, répondit Jean, qu'il attende que nous ayons découvert quels peuvent être son nom et sa qualité. Dut-il attendre jusqu'à la nuit, il a fait assez de besogne pour ne pas avoir froid. »« Votre grâce, reprit Valdemar Fitzurse, manquera aux égards qui sont dus au vainqueur si elle le fait attendre jusqu'à ce que nous ayons dit ce que nous ne pouvons savoir. À moins que cet inconnu ne soit une des bonnes lances qui accompagnaient le roi Richard et qui, ayant quitté la Terre Sainte pour revenir dans la Grande-Bretagne, errent aujourd'hui de pays en pays, il me serait impossible de deviner qui il est. C'est peut-être le comte de Salisbury, dit de Bracy. Il se trouve précisément dans ce cas. « Ce serait plutôt Sir Thomas de Multon, chevalier de Gisland, » répliqua Fitzurse. « Salisbury est plus grand. »« C'est peut-être Richard Cœur de Lion, » dit quelqu'un de la suite, mais d'une voix basse et de manière à ne pas être remarqué. « À Dieu ne plaise !» dit en se retournant involontairement le prince Jean, aussi pâle que la mort, et frémissant comme s'il eût été frappé de la foudre. « Valdemar de Bracy, brave et noble chevalier, rappelez-vous vos promesses, je compte sur vous. » « Ne craignez rien, prince, répondit Valdemar. Connaissez-vous donc assez peu la taille gigantesque de votre frère, pour penser qu'il lui soit possible de revêtir l'armure que porte cet inconnu ? De Wiville et Martival, amenez le vainqueur au pied du trône et mettez ainsi fin à une erreur qui cause au prince un grand tourment. Prince, continua-t-il, examinez l'étranger de plus près, et vous reconnaîtrez qu'il s'en faut au moins de 3 pouces que sa taille égale celle de Richard. D'ailleurs, le roi a les épaules beaucoup plus larges. Le cheval que montait l'inconnu n'eût pu fournir une seule course sous Richard. Il finissait de parler lorsque les maréchaux amenèrent le chevalier déshérité au pied de l'escalier en bois qui conduisait de la lice au trône. Jean, tout rempli encore de l'idée que son frère, qu'il avait tant offensé, et à qui il avait cependant de si grandes obligations, venait soudainement d'arriver au milieu de ses états, idée que les assurances de Fitzurse n'avaient pu même dissiper tout à fait. Jean complimenta l'étranger sur sa valeur, mais d'un air embarrassé, et donna ordre qu'on lui amenât le noble coursier qui était le prix réservé au vainqueur. Pendant ce temps, il tremblait que, sous cette visière baissée à travers laquelle il eût voulu faire pénétrer ses regards, la voix de Richard Cœur de Lion ne fît entendre ses accents sévères et redoutables. Mais le chevalier ne répondit au compliment du prince que par un humble et profond salut. Deux valets somptueusement vêtus conduisirent à travers l'arène le coursier paré du plus riche attirail de guerre. Mais aux yeux des connaisseurs, ces ornements n'ajoutaient que peu à son prix. Posant une main sur le pommeau de la selle, le chevalier déshérité s'élança d'un seul bond sur le dos du noble animal, sans faire usage des étriers. Puis, brandissant sa lance au-dessus de son casque, et avec l'adresse d'un parfait écuyer, il lui fit faire deux fois le tour de la lice en exécutant toutes les évolutions imaginables. Cette manœuvre, que dans tout autre cas on eût pu taxer de vanité, parut alors pleine de convenance, puisque l'étranger semblait n'avoir voulu que prouver la manière la plus ostensible le prix qu'il attachait au présent dont le prince l'avait honoré. Aussi fut-il accueilli par des acclamations universelles. Cependant, l'obséquieux prieur de Jorvaux, s'adressant au prince Jean, lui dit à voix basse que le vainqueur, après avoir déployé son courage, devait au moins donner des preuves de son goût et de sa galanterie, en choisissant parmi les dames qui ornaient les galeries celle qui devait occuper le trône de la reine de la beauté et des amours, et couronner le vainqueur le lendemain. Le prince fit un signe au chevalier dans le moment où, parcourant pour la seconde fois la lice, il passait devant lui. Celui-ci se tourna vers le trône et, baissant sa lance jusqu'à ce que la pointe fût à un pied de terre, resta immobile, comme pour attendre les ordres du prince. Chacun admira l'étonnante dextérité avec laquelle, d'un mouvement rapide et animé, il avait su passer à l'état d'immobilité d'une statue équestre. « Sire chevalier déshérité, dit le prince Jean, puisque c'est le seul titre sous lequel je puisse vous adresser la parole, il est de votre devoir, ou plutôt c'est une prérogative que vous avez acquise, de choisir la noble dame qui demain, en qualité de reine de la beauté et des amours, doit présider à la fête. Si, comme étranger dans ce pays, vous désirez être guidé dans votre choix, je puis vous dire qu'Alicie, fille de notre brave chevalier Valdemar Fitzurse, est regardée à ma cour comme la plus belle et la plus distinguée. » Et il lui indiqua la place qu'elle occupait dans une galerie voisine. « Au reste, vous avez le droit de remettre cette couronne, qui doit être demain posée sur la tête du vainqueur, à telle dame qu'il vous plaira de choisir. Elle sera pour nous la reine de la beauté et des amours. Levez votre lance. » Le chevalier obéit, et le prince mit sur le fer de sa lance une couronne de satin vert bordée d'un cercle d'or, dont la partie supérieure représentait des pointes de flèches et des cœurs, disposées alternativement comme les feuilles et les boules de fraisier d'une couronne ducale. Les principaux motifs qui avaient déterminé le prince Jean à parler ainsi de la fille de Valdemar Fitzurse prenaient leur source dans un cœur pétri d'insouciance et de présomption, d'astuce et de bassesse. Il voulait, d'une part, bannir de l'esprit des chevaliers qui l'entouraient le souvenir de la présenterie indécente et déplacée qu'il s'était permise au sujet de la juive Rebecca. De l'autre, se concilier l'esprit du père d'Alicie, dont il redoutait les censures et qui, plus d'une fois dans le cours de cette journée, avait osé désapprouver sa conduite. Il souhaitait également gagner les bonnes grâces de cette jeune dame elle-même, car il n'était pas moins licencieux dans ses plaisirs que perfide dans son ambition. Enfin, indépendamment de ces divers motifs, le dessein de Jean était de susciter au chevalier déshérité, pour qui il ressentait déjà une violente aversion, un ennemi puissant dans la personne de Valdemar Fitzurse, qui, pensait-il, ressentirait vivement l'injure faite à sa fille si, ce qui était probable, le vainqueur faisait un autre choix. Ce fut en effet ce qui arriva. Le chevalier déshérité passa près de la galerie attenante à celle du prince, et dans laquelle Alicie déployait tout l'orgueil d'une beauté triomphante. Il marchait alors avec autant de lenteur que peu d'instants auparavant il avait mis de vitesse à parcourir la lice, et semblait jouir du privilège qui lui était accordé de promener de longs regards sur les beautés nombreuses qui formaient ce cercle magnifique. Pendant tout le temps que dura cet examen, l'attitude des différentes dames offrit un spectacle vraiment curieux. L'une rougissait, une autre prenait un air d'orgueil et de dignité, Celle-ci détournait les yeux, feignant d'ignorer ce dont il s'agissait. Celle-là s'efforçait de cacher un sourire. Enfin, plusieurs souriaient afin de se donner plus d'attrait. Quelques-unes ramenèrent leur voile devant leur visage. Mais, comme le manuscrit de Wardour assure que certaines de ces beautés étaient depuis plus de 10 ans l'objet de l'admiration des galants de la cour, on peut supposer que, rassasiées des vanités de ce monde, elles voulaient d'elles-mêmes renoncer aux honneurs du triomphe, afin de laisser aux beautés naissantes plus de chances de succès. Enfin, le vainqueur s'arrêta sous la galerie dans laquelle était Lady Rowena, et aussitôt tous les yeux se dirigèrent sur elle. Il faut avouer que si le chevalier déshérité avait pu être attiré de ce côté de la lys par la connaissance des vœux que l'on y faisait en sa faveur, sa prédilection eût paru un acte de justice. Cédric le Saxon avait été comblé de joie lors de la chute du Templier, et plus encore lors de la défaite de Front de Bœuf et de Moillevoisin, ses deux plus perfides ennemis. Le corps à moitié hors de la galerie, il avait accompagné le vainqueur dans toutes ses courses, non seulement des yeux, mais encore de tout son cœur, de toute son âme. Lady Rowena avait vu avec un égal intérêt les événements de la journée, quoique sans paraître y donner une aussi grande attention. L'indolent Athelstan lui-même était sorti plusieurs fois de son apathie pour demander un grand verre de muscat et le boire au succès du vainqueur. Un autre groupe, placé sous la galerie qu'occupaient les Saxons, n'avait pas porté un intérêt moins vif aux chances diverses du combat. « Père Abraham ! » dit Isaac D'York, en voyant la première fois le chevalier déshérité entrer dans l'arène. « C'est lui ! C'est lui-même ! Oh, comme il chevauche noblement ce gentil !» Et lorsqu'il s'élança contre le Templier, « Ce bon cheval de barbarie, ajouta-t-il, que l'on a amené de si loin, il ne le ménage pas plus que si c'était un âne sauvage. Et cette brillante armure qui fut payée si cher à Joseph Pereira, armurier à Milan et qui devait rapporter 70% de bénéfices, il s'en inquiète aussi peu que s'il l'avait trouvée sur le grand chemin. « Mon père, répondit Rebecca, devrait-il donc s'occuper de son coursier et de son armure plus qu'il ne s'occupe de sa personne, qu'il expose dans un si rude combat ?» « Ma fille, répondit Isaac d'un air mécontent, tu ne sais pas de quoi tu parles. Son cou et ses membres sont à lui, mais son cheval et son armure appartiennent à... Bienheureux Jacob, qu'allais-je dire? N'importe, c'est un brave jeune homme. Vois, Rebecca, vois, il va atteindre le Philistin. Prie pour que Dieu conserve ce brave jeune homme, et son bon coursier et sa riche armure. Dieu de mes pères, il a vaincu, et le Philistin incirconcis est tombé sous sa lance, comme Og, roi de Bazan, et Sion, roi des Ammonites. Tombèrent sous le glaive de nos pères. Sans doute il prendra leur or et leur argent, leurs chevaux de bataille et leurs armures d'airain et d'acier. Il les prendra comme une dépouille légitime. » Le digne israélite montra la même anxiété à chacune des courses que fournit le chevalier, n'oubliant pas de calculer à la hâte la valeur présumée du cheval et de l'armure de chacun des vaincus. On avait donc pris le plus vif intérêt au chevalier déshérité dans cette partie de la lice devant laquelle il s'arrêta. Soit par indécision, soit par quelque autre motif, le vainqueur demeura quelques instants immobile devant la galerie, tandis que l'assemblée attendait en silence, et les yeux fixés sur lui, ce qu'il allait faire. Enfin, baissant graduellement et avec grâce le bout de sa lance, il déposa la couronne aux pieds de la belle Rowena. Aussitôt les trompettes sonnèrent une fanfare, et les héros d'armes proclamèrent Lady Rowena, reine de la beauté et des amours pour le lendemain, menaçant de punitions sévères quiconque oserait lui dénier ce titre. Ils répétèrent leur cri « Largesse, brave chevalier, largesse !» auquel Cédric, dans le comble de sa joie, répondit en jetant au milieu de l'arène tout l'argent qu'il portait sur lui, libéralité qu'Athelstan, quoiqu'avec plus de lenteur, imita avec plaisir. Quelques murmures s'élevèrent parmi les dames d'origine normande, aussi peu accoutumées à se voir préférer des beautés saxonnes que les barons normands l'étaient à être vaincus dans les jeux chevaleresques. Mais ces signes de mécontentement furent étouffés par les cris de la multitude, qui répétait avec enthousiasme « Vive Lady Rowena ! Vive la reine de la beauté et des amours !» On entendit même quelques cris de « Vive la princesse saxonne ! Vive la race de l'immortel Alfred !» Quelque peu agréables que fussent pour le prince Jean, aussi bien que pour ceux qui l'entouraient, et ses acclamations et le sujet qui les occasionnait, il se vit obligé de confirmer le choix du vainqueur. Se faisant amener son cheval, il descendit les degrés du trône, s'élança en selle et, entrant dans la lice avec sa suite, se dirigea vers la galerie qu'occupait Lady Alice. Après s'y être arrêté quelques instants et lui avoir adressé quelques mots de galanterie, il se tourna vers ceux qui l'entouraient et dit à haute voix, Par la Sainte Vierge, messieurs, si le chevalier déshérité nous a prouvé que ses membres sont robustes et vigoureux, le choix qu'il vient de faire nous prouve aussi que ses yeux ne sont pas des plus clairvoyants. Dans cette circonstance, comme dans tout le cours de sa vie, le malheur de ce prince fut de ne pas assez connaître le caractère de ceux qu'il désirait s'attacher. Blessé plutôt que flatté de l'observation du prince qui déclarait ainsi publiquement qu'Alicie avait été dédaignée, Waldemar Fitzurse se reprit avec fierté. « De tous les droits de la chevalerie, aucun n'est selon moi plus précieux et plus inaliénable que celui qu'a tout chevalier de choisir sa dame. Ma fille ne brigue les hommages de qui que ce soit. Son rang et son caractère ne peuvent que lui attirer ceux dont elle est digne. » Jean ne répliqua pas, mais, comme pour exhaler son dépit, il donna de l'éperon à son cheval et le poussa du côté de Lady Rowena. La couronne était encore à ses pieds. « Aimable dame, dit-il, posez sur votre front les marques de votre souveraineté. Personne n'y rend plus sincèrement hommage que nous. S'il vous plaît, ainsi qu'à votre noble père et à vos amis, d'embellir aujourd'hui de votre présence notre banquet au château d'Ashby, nous serons heureux de connaître plus particulièrement la souveraine à qui la journée de demain sera consacrée. » Rowena gardant le silence, Cédric prit la parole. « Lady Rowena, dit-il en saxon, ne connaît pas la langue dans laquelle elle devrait répondre à votre courtoisie et soutenir sa dignité à votre banquet. Moi-même et le noble Athelstan de Königsberg, nous ne parlons que la langue et ne connaissons que les usages de nos ancêtres. Nous regrettons donc de ne pouvoir accepter votre obligeante invitation. Demain, Lady Rowena remplira les fonctions auxquelles vient de l'appeler le libre choix du vainqueur, confirmé par les acclamations du peuple. » En finissant de parler, il prit la couronne et la posa sur la tête de Rowena pour indiquer qu'elle acceptait l'autorité temporaire qui lui était conférée. « Que dit-il ? » demanda le prince, feignant de ne pas entendre le saxon qui lui était cependant bien familier. Un de ses courtisans le lui traduisit en français. « C'est bien, reprit-il. Demain nous introniserons cette reine muette. « Vous, au moins, sire chevalier, ajouta-t-il en se tournant vers le vainqueur resté près de la galerie, vous prendrez part à notre banquet. » Le chevalier, parlant pour la première fois et d'une voix un peu basse et précipitée, s'excusa sur la fatigue qu'il éprouvait, sur le besoin qu'il avait de repos et sur la nécessité de se préparer au combat du lendemain. « À merveille, dit le prince avec hauteur, bien que nous soyons peu accoutumés à de pareils refus, nous tâcherons d'égayer le festin en l'absence du vainqueur et de sa reine. » À ces mots, il quitta la lice avec sa suite, et son départ fut le signal de la dispersion des spectateurs. Cependant, le propre de l'orgueil offensé, surtout chez celui qui ne peut se dissimuler sa propre médiocrité, est d'être vindicatif. À peine donc eut-il fait trois pas que, regardant autour de lui, Jean attacha son œil plein de colère sur l'archer qui lui avait déplu au commencement de cette journée, et qu'il avait placé sous la surveillance de quelques-uns de ses hommes d'armes. « Votre tête, dit-il, me répond de lui s'il s'évade. » L'archer soutint le regard courroucé du prince avec le même sang-froid qu'il avait montré le matin, et dit avec un sourire, « Je n'ai pas l'intention de quitter Ashby avant 2 jours. Il faut que je voie comment les archers des comtés de Stafford et de Leicester manient leurs arcs. Les forêts de Needwood et de Charnwood nourrissent, je pense, de bons tireurs, et elles offrent de quoi les exercer. » « Et moi, dit le prince Jean à son cortège, sans daigner adresser une réponse directe à l'Ayoman, je veux voir comment ce drôle se sert de son arme. Et malheur à lui si son adresse ne suffit pas pour excuser son insolence !»« Il est plus que temps, dit de Bracy, que l'outrecuidance de ces paysans soit réprimée par quelque exemple frappant. » Waldemar Fitzurse, qui pensait probablement que son maître ne prenait pas la bonne voie pour arriver à la popularité, haussa les épaules et garda le silence. Le prince poursuivit sa route, et la foule ne tarda pas à se disperser. Le plus grand nombre des spectateurs se rendaient à Ashby, où les plus élevés en dignité avaient un logement au château, les autres dans la ville. Au nombre de ces derniers se trouvaient quelques-uns des chevaliers qui avaient figuré ce jour-là ou qui se proposaient de figurer le lendemain comme assaillants dans le tournoi. Les uns marchaient à pas lents et en silence, d'autres en s'entretenant des événements du jour, et ils étaient accueillis avec de bruyantes acclamations par la populace, qui en adressait également au prince, mais plutôt à cause de la splendeur de son cortège que par une affection qu'elle ne lui portait pas. Ces démonstrations de joie plus sincères, plus générales et plus légitimes étaient offertes au vainqueur qui, désirant se dérober à un si grand empressement, accepta l'offre que lui firent les maréchaux du tournoi d'un des pavillons placés à l'extrémité septentrionale de la lice. Sitôt qu'il y fut entré, ceux qui avaient voulu, en l'accompagnant, parvenir à découvrir son nom et son état, ou du moins arriver à quelques conjectures probables sur ce sujet, se retirèrent. À mesure que les différents groupes s'éloignaient, le silence succédait au tumulte et aux cris qui règnent toujours au milieu d'une nombreuse réunion d'hommes qui assistent à un spectacle fait pour remuer leur passion. On n'entendait plus que les voix rares de ceux qui étaient chargés d'enlever les coussins et les tapisseries, afin de les mettre en sûreté pour la nuit, et qui se disputaient les restes du vin et des autres rafraîchissements que, par ordre du prince, on avait servis aux spectateurs. À une faible distance de la lice, plusieurs forges commençaient à faire briller leurs flammes au milieu des ténèbres de la nuit, que les armuriers employèrent à réparer les armes qui devaient servir le lendemain. Un fort détachement d'hommes d'armes qui se relevait, de 2 en 2 heures, formant un cordon autour de la lice, exerça pendant toute la nuit une active surveillance.